France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour Fanny Taillandier. J'ai lu Sicario Bébé, que j'ai beaucoup aimé, avec une justesse, je trouve, dans la trajectoire de Blaise et de Jen, ce couple de jeunes adultes qui tentent de surnager au quartier, qui tentent de surnager par rapport au système éducatif, par rapport aux difficultés financières. Vous arrivez à restituer toute la complexité de ces parcours de jeunes qui tentent de continuer à avancer, malgré les galères.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Blaise et Jen s'aiment. Ils sont très jeunes, elles tombent enceintes, ils sont complètement fauchés. Comment gagner de l'argent rapidement, demande le jeune homme à ChatGPT. Plusieurs solutions lui sont présentées par le bot intelligent, mais ce n'est pas suffisant. Ce qui paye plus que tout, plus cher que tout, c'est le crime. Voilà dans quoi on est aujourd'hui au Book Club. Une salle à faire, mais aussi une histoire d'amour, une vitesse de langage, des amitiés, des voitures, la marche du monde, le fléau du trafic de drogue et de son corollaire, le crime organisé. Partout en France, c'est-à-dire dans les très grandes villes, dans les villes moyennes et jusqu'aux plus petits villages. Villes et campagnes, c'est justement le thème des 10e nuits de la lecture organisées par le CNL, Centre National du Livre, et qui commence ce soir. On y lira peut-être Sicario Bébé, ça c'est le titre du roman dont nous parlons aujourd'hui. Il vient de paraître aux éditions Rivage et Fanny Taillandier, son autrice et notre invitée, elle est toute seule. C'est une grande amatrice de musique, on n'aura donc pas de mal à terminer l'émission par le grand jeu des pages musicales. On est ensemble pour une heure, on est ravis. Bienvenue dans le Book Club. Bonjour Fanny Taillandier.
Bonjour.
Sicario Bébé, apparu aux éditions Rivage. Bienvenue dans le Book Club, c'est une maison que vous connaissez bien, vous avez tenu ici la chronique lecture d'actualité qu'on peut réécouter sur franceculture.fr. On est ravis de vous revoir à cette table à l'occasion de l'apparition de votre nouveau roman. Comme je le disais en introduction, cette année se tient la 10e édition des Nuits de la Lecture, d'aujourd'hui, 21 janvier au 25 janvier prochain, autour du thème « Villes et campagnes » organisé par le Centre National du Livre pour célébrer le plaisir de lire. Dans un moment où beaucoup s'inquiètent justement à la fois de la baisse du temps de lecture, mais aussi beaucoup des coupes budgétaires très fortes des subventions attribuées au monde du livre prévues dans le budget 2026. On aura probablement l'occasion d'en reparler ici au Book Club. Villes et campagnes sont des territoires intimement liés, des espaces géographiques que vous traversez, que vous travaillez depuis longtemps, Fanny Taillandier, et à chaque fois avec des angles, des attaques d'approche, des attaques dans la langue, dans la littérature différentes. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait envie de vous recevoir aujourd'hui en écho avec ce thème des nuits de la lecture. Pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre travail, comment est-ce que cette ou bien dichotomie, ou bien superposition, ou bien tout simplement intérêt pour le territoire traverse votre travail ?
Bah, ville et campagne, oui, vaste question, ville et campagne. Mais ville et campagne, bah, déjà la première chose qui me vient, c'est que ville et campagne, ça oublie ou ça omet l'espace qui fait le lien entre la ville et la campagne.
Et qui vous intéresse.
La banlieue, la périphérie, le périurbain, on peut lui donner plein de noms, et qui est l'espace d'où moi je viens, dans lequel j'ai grandi, et qui, je pense, m'a donné une sensibilité au paysage incroyable, parce que justement, entre ville et campagne, dans ces endroits qui sont ni totalement urbains ou historiquement urbains, ni ruraux, agricoles, forestiers, etc. En fait, il y a une forme de diversité et de chaos, de construction, de démolition, de friches, de terrains vagues, d'infrastructures, de voies de chemin de fer, de hangars, de tout ça, qui est, je trouve, assez fascinante à contempler. Et je pense que si ce thème traverse effectivement quand même un peu tous mes livres, c'est à cause de
l'endroit
de
où
cet
vous avez
émerveillement,
grandi.
Bah ouais, et puis de ce vaisseau de l'adolescence qui est le RER.
Ouais. Ou le train de banlieue.
Ou le train de banlieue, mais
selon où on
voilà.
se situe.
C'est ça, en tout cas, la possibilité de regarder par la fenêtre une ville qui se développe à l'infini et qui n'est jamais centrale. Et qui n'est jamais non plus le bord de la ville. Enfin, le bord de la ville est très difficile à trouver, il bouge tout le temps. Et donc ça crée une forme d'attention, je pense, et aussi une forme de questionnement sur qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y aura après. Et donc la sensibilité au fait que tout est toujours très fluctuant et transitoire, et que quand on regarde une construction, on a toujours l'impression qu'elle est là pour durer, et en fait elle dure souvent très très peu.
Et peut-être qu'on peut aussi élargir à la question de la frontière, parce que vous dites avoir grandi dans cet endroit périurbain ou banlieusard, ça donne une sensibilité à la question du centre, parce qu'en effet c'est avoir grandi dans un endroit qui n'est pas le centre, et avoir la conscience physique, émotionnelle, spatiale, qu'on n'est pas dans le centre, qu'on le rejoint, qu'on s'en éloigne, qu'on le contourne. Mais je trouve que ça fait aussi naître une autre ligne pour traverser votre œuvre littéraire, qui est la frontière, qui est la limite, celle qu'en effet on doit franchir pour passer de la banlieue à la grande ville, etc. etc. Et cette frontière, elle est aussi beaucoup travaillée dans vos livres.
Oui, bah c'est un peu le corollaire. C'est-à-dire que moi, donc, j'ai grandi à Alfortville, donc qui est une commune qui est limitrophe de Paris. Et pour autant, Paris, c'était vraiment un autre monde. Et je me rappelle très bien, étant petite, d'être allée à Paris avec la classe et d'avoir vu un jour le panneau avec marqué Paris. Et en fait, c'était un panneau qui était absolument infâme parce qu'il était dans un bout du périph, en fait, dans l'échangeur de la porte de Bercy. Maintenant, je le sais. À l'époque, je savais pas. Et je m'étais dit, ah bon, bah, si c'est que ça, c'est quand même dommage qu'on
c'est
en parle.
C'est pas très
ville lumière. Voilà, il y a quelque chose où le grand ailleurs devient espagnol, un peu, en fait, dérisoire, quoi. Et donc, ça montre très vite quelque chose qui est qu'il y a une convention, quoi. Mm. Une frontière, c'est toujours une convention. C'est, à un moment donné, des gens ont décrété que la frontière passait là. La frontière physique de Paris et de sa banlieue, ou la frontière symbolique, toutes les frontières symboliques, c'est des conventions qui sont tacites ou non, qui sont plus ou moins instituées, mais qui sont très actives en fait. Ces frontières, c'est toujours des choses qui sont actives parce qu'elles sont là pour inclure ou exclure selon le point de vue d'où on parle. Et donc elles ont une forte efficacité politique et une efficacité qui est très souvent une tyrannie. Pour beaucoup de gens.
Et aussi un moteur ou bien romanesque, ou bien un moteur de pensée quand vos textes flirtent davantage avec l'essai. La question de cette frontière-là et de ces territoires est souvent à l'œuvre dans vos mécaniques de texte, Fanny Taillandier. Je le disais, ce ville et campagne, dont on a vu que ce qui était intéressant, c'était aussi tout ce qui se décline, la palette entre les deux. C'est le titre des Nuits de la lecture. Les Nuits de la lecture, ce sont, j'y reviendrai tout à l'heure, des tonnes et des tonnes de manifestations partout en France, dans différents lieux qui sont consacrés à la lecture, à Cal, les bibliothèques, les médiathèques, j'espère des bars de quartier, enfin, et peut-être pour encourager, souligner la place qu'on peut faire dans sa vie à la lecture, c'est une grande question de société, évidemment, aujourd'hui. Est-ce que vous êtes sensible à cette question de société qui serait la diminution du temps de lecture et puis peut-être allons-y vers ce fameux questionnaire lecture qui ouvre le Book Club et vous, quelle place ça tient?
Bah évidemment que j'y suis sensible parce que je subis comme tout le monde la diminution du temps de lecture parce que on vit avec des appareils dans les poches qui sont faits pour nous capter et nous capter le plus longtemps possible, on le sait tous, hein, je fais pas exception, je suis pas plus héroïque que quiconque et un écran allumé quand on est un peu fatigué, ça marche mieux sur nos neurones que une page de livre. Et ce qui est en même temps très beau là-dedans, c'est que ça met le doigt sur ce que c'est comme résistance d'aller chercher quelque chose dans un livre. Et les livres ont toujours été, je crois vraiment dans l'histoire, c'est une constante, des choses que, en cas de grand bouleversement politique, en cas de crise, en cas de cataclysme, en cas de catastrophe, les humains se sont empressés de conserver, de transmettre, de recopier, de traduire. Et ça, je trouve que c'est très beau et très fort. Et oui, on est tous détournés de ça, sans verser dans aucun complotisme. Hein. C'est pas des smartphones qui ont décidé de prendre le pouvoir sur nos cerveaux, mais en tout cas,
a priori,
c'est ce qui se
humains.
Passe. A priori, il y a peut-être des humains derrière les machines, et encore, c'est de moins en moins sûr. En tout cas, quoi qu'il en soit, oui. Quand on lit, on résiste. Et on résiste aussi à de la démoralisation, à de la pensée rapide, à du préjugé. Et on redonne en soi un espace pour la méditation et pour le questionnement. Et ça restera toujours, valable, quoi. Donc, oui, bien sûr, la lecture, c'est important. C'est ça la question.
Je disais que ces nuits de la lecture s'implantent dans différents endroits et après tout, on peut faire aussi une nuit de la lecture chez soi du 21 au 25 janvier ou où qu'on veuille, ou dans une ZAD, ou dans un bar, ou dans une médiathèque. Ce sont des lieux, ces différents lieux où se vit la lecture aujourd'hui, Fanny Taillandier, que vous fréquentez. Ça vous intéresse aussi la pluralité de ces lieux où peut vivre la lecture?
Ah bah moi, je suis une fervente usagère de bibliothèques, médiathèques. En fait, je trouve ça génial que on vive dans un pays où, dans n'importe quelle commune, il est possible d'entrer gratuitement dans un lieu sans que personne vous demande votre identité, vos papiers, quoi que ce soit, qu'il y ait de la lumière, qu'il y ait du chauffage, des fauteuils et un accès libre à tout type de lecture. Et ça, c'est quelque chose, enfin, c'est une utopie qui se réalise partout.
Ouais, répétez lentement chez vous ces phrases-là et redites-vous à quel point c'est fou, quoi.
Bah, en fait, c'est fou. Et c'est vraiment, il me semble, le seul espace comme ça qui soit accessible aujourd'hui dans notre pays, quoi. Et bon, moi, je vais souvent travailler à la médiathèque qui est à côté de chez moi. Et dans cette médiathèque, il y a des gens qui viennent comme moi avec un ordinateur, il y a des gens qui viennent consulter des livres ou en emprunter. Et puis, il y a des gens qui viennent juste pour lire le journal, d'autres qui clairement ont dormi dehors et qui viennent pour se réchauffer, des gamins qui viennent parce qu'il y a un endroit où on peut utiliser les consoles et un autre endroit où il y a les livres pour enfants. Et tout ce beau monde cohabite et c'est entièrement gratuit, et gratuit au sens noble du terme, c'est un acte gratuit, quoi. Donc oui, bien sûr, les bibliothèques, c'est formidable.
Et alors pour vous, l'aventure de la lecture commence comment, Fanny Taillandi? Vous avez dit, j'ai grandi. On a une géographie. On a Alfortville et un sombre, pouilleux panneau de la ville de Paris. Et oui. Où sont les livres dans cette géographie-là?
Bah, il y a un troisième point dans la géographie qui est plutôt à la campagne, qui est chez mes grands-parents, où il y avait le livre de lecture de ma mère, et je pense que c'est le premier,
son premier souvenir,
ouais, son livre d'écolière, donc qui datait des années 1960, et je me souviens m'être dit j'arrive à lire pour la première fois en lisant Papa fume la pipe dans ce livre, donc on voit bien que c'était les années 60, Papa fume la pipe, et donc ça c'est mon premier souvenir, et après moi j'ai plongé là-dedans, ça m'a jamais quitté, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les clubs des cinq, il y avait toute la bibliothèque verte, et c'était infinie,
il y avait,
quoi.
Chez vous, c'était déjà là? Je veux dire, vous pouviez les prendre dans la bibliothèque chez vous?
Ouais, il y avait les livres de mes parents, et puis moi, on m'en offrait aussi, et puis j'allais à la bibliothèque, et puis, enfin, en fait, je lisais, je sais pas, 5 heures par jour quand j'étais gamine, quoi.
Et qu'est-ce que vous avez trouvé là qui vous attachait tant, qui vous passionnait tant?
Ben ça, c'est très difficile à savoir.
Ouais.
Mais je crois que j'étais assez...
C'est pour ça que cette question, je me lasse pas de la poser. Parce que je trouve ça hyper mystérieux. Qu'est-ce qu'on y trouve pour ceux qui y trouvent quelque chose?
Bah déjà, on peut vivre plus de vie que celle qu'on a. Et moi, je trouvais que ma vie était assez ennuyeuse. Je pense que je m'ennuyais pas mal et que du coup... Mais je m'ennuyais de manière un peu morale, quoi. C'est-à-dire presque métaphysique. Je trouvais que dans les livres, il y avait des aventures. Moi, il m'arrivait franchement jamais rien, quoi. Et une fois que j'avais mangé mon goûter, c'était la dernière péripétie de la journée, quoi. Donc, il y avait ce côté romanesque qui me plaisait. Et puis je crois aussi que j'étais assez agitée comme enfant et puis ensuite comme adolescente, et que en lisant ça me calmait, et que du coup ça me permettait en fait de, juste de me reposer de ma propre
agitation,
de ma propre énervement,
ouais. Chose que vous pouviez conscientiser, vous pouviez vous dire
non, pas du tout, et je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard.
Vous pouviez pas vous dire ok, ça va trop vite dans ma tête, je suis trop agitée, prenons un livre?
Non, mais par contre, il y avait des jours où je voulais parler à personne et je lisais, quoi. Et clairement, je pense que ça me soignait de moi-même, quoi. Enfin, de mon trop-plein d'intensité. Mais je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, parce que moi, du coup, j'avais le souvenir d'avoir été très lectrice. Donc, je me disais, j'étais tête en l'air. En plus, ensuite, à l'école, les profs ont dit que j'étais tête en l'air. Donc, je me disais, je devais être un peu rêveuse. Et puis, j'ai vu des images du caméscope de mon oncle et ma tante qui avaient un caméscope. Et en fait, je suis un boucan, quoi. C'est-à-dire que, je hurle, je saute partout. Et vraiment, donc... En fait,
mais on vous voit lire ou pas sur ces
on voit aussi, sur des photos, on me voit vraiment boudeuse, mais enfoncée dans un livre en pleine journée pendant les vacances, quoi.
Est-ce qu'il y a des grands flashs de lecture que vous voudriez, comme ça, on a parlé du territoire, donc mettre comme ça en étoile sur le territoire pour aujourd'hui?
Sur le territoire?
Sur le territoire de cette émission, qu'on ait en tête, ok, Fanny Taillandi, elle a eu une révélation en lisant ceci, ceci et ceci.
Bah alors c'est un livre que j'ai lu très tardivement, donc c'est pas pour le coup ça rentre pas dans cette espèce de retour autobiographique sur mon rapport à la lecture, mais qui m'a vraiment marqué, qui est Génie du proxénétisme de Charles Robinson, où en fait on est dans la voix qui parle, c'est une espèce de nous qui est le nous d'une équipe de marketing qui ont décidé que la meilleure chose à faire pour redynamiser une je sais plus si c'est une petite ville ou une zone commerciale en déshérence, c'est de mettre dedans une maison close. Et donc, avec le vocabulaire du marketing, ils expliquent que vraiment, ce sont des produits de première fraîcheur qui sont présentés, qu'on a une véritable attention à l'expérience client, etc. Et puis, en fait, il arrive à décrire tout l'espace autour, donc cet espace qui est l'espace des zones d'activité, quoi, en gros, à partir de ce postulat un peu dystopique et en même temps assez drôle, quoi. Et vraiment ça c'était assez fort. C'est pas à proprement parler géographique. Et ensuite il a fait dans les cités et fabrication de la guerre civile, c'est un peu pareil, sauf que là il se base sur un énorme grand ensemble fictif. Et il arrive à travers la langue de personnages qui ont différents intérêts dans cet espace-là, à évoquer l'espace, sans jamais l'évoquer par lui-même. Et ça, je trouve que c'est assez fort. Donc là, c'est ce qui me vient, là, comme ça, à froid. Il y en aurait sans doute mille autres à évoquer, mais c'est ce.
Dans votre roman, sur lequel on va arriver dans un instant, il y a quelques références littéraires qui passent. La mère, l'idée des polars, Jen, la jeune fille, aime la poésie qu'elle emprunte à la bibliothèque. Il y a aussi des références qui sont faites aux grands textes mythologiques, à Homère, à la figure d'Ulysse. Il y a René Char, Fureur et Mystère. Il y a un petit passage, si je ne me trompe pas, des larmes d'Achille qui, quand même, aurait préféré ne pas faire la guerre, hein, et vivre sa vie. Qu'est-ce que vous semez là, Fanny Taillandier, là, en tant qu'autrice-lectrice, en faisant de vos personnages des personnages qui rencontrent des livres?
Ben, en fait, je crois que je ne l'ai pas vraiment... Enfin, je l'ai fait intentionnellement, bien sûr. J'ai décidé d'écrire ces phrases et de laisser ces références à la relecture dans le texte. Mais en fait, c'était plutôt sur le coup, au moment où j'étais en train d'écrire et d'inventer l'histoire, et donc que j'étais moi-même projetée dans l'univers des personnages, c'était plutôt des références qui venaient à moi. C'est-à-dire qu'à un moment, cette lumière s'allumait dans ma tête et que j'avais envie qu'il y ait ça. C'était pas, il y avait pas vraiment de stratégie.
Pas de programme.
Il y avait pas de programme. Et d'ailleurs, il y a assez peu de cohérence entre ces différentes références, en fait. Ça tisse pas un ensemble qui ferait sens. C'est pas très métatextuel ou très.
Mais par contre, ça nous parle aussi de vous. C'est pour ça que je dis autrice-lectrice. C'est-à-dire qu'au final, peut-être plus que nous renseigner sur vos personnages ou construire quelque chose de plus construit, justement, sur vos personnages, on voit un souterrain, en effet, peut-être rhizomique et pas nécessairement raisonné de vos propres lectures, non?
Ouais, alors, il y a la référence à Ulysse, ça, c'est sûr. Ça, ce que j'aime dans le personnage d'Ulysse, c'est que, en fait, tout le monde le connaît. On le connaît à partir de nos 6 ans ou 7 ans. Et puis ensuite, on le connaît pour toute la vie. Et ça, je trouve que c'est quand même assez fort de la part d'Homère d'avoir réussi à faire un personnage qui tienne la distance à ce point-là et qui continue à, en fait, nous surprendre, quoi. C'est-à-dire qu'il y a toujours une histoire d'Ulysse qu'on connaît pas ou quand on la réécoute, on se dit que c'est quand même fou. Et j'aimais bien qu'il soit présent pour ça, parce que c'est des jeunes gens qui vivent des aventures et que quelque part, Ulysse, il est là pour nous guider. C'est pas le mot, parce que ses aventures, lui, sont tellement erratiques que c'est vraiment pas un bon guide, mais pour nous aider à comprendre que, quelque part, le voyage est aussi là où on va trouver du sens, même si elle en fait pas forcément. Donc ça, c'est une partie. Après, il y a les lectures de Jen, donc qui prend des livres à la bibliothèque et qui, elle, adore lire de la poésie.
Qui est une jeune fille, donc 17 ans au début du roman, et qui tombe enceinte, on le sait, dès la première page.
Voilà, c'est ça, qui a été orientée en carrière sociale, qui n'est pas passionnée par ses études, mais qui compte quand même faire un BTS derrière, donc qui est assez ambitieuse, et qui donc aime la poésie. Et ça, pour moi, c'était important, parce que la poésie, c'est un peu comme Ulysse dans un autre sens, c'est-à-dire que ça parle à tout le monde, quoi. C'est-à-dire qu'on sait pas pourquoi ça parle, mais quand on aime un poème, on l'aime bien. Et quand on l'aime pas, on l'aime pas. Et il y a quelque chose de très intuitif, un peu comme la musique, avec la poésie, que j'avais envie de laisser là, qui devait avoir une place, en tout cas, dans ce monde où, dans lequel ils vivent, où tout est quand même très serré. En fait, les circonstances sont assez obtuses pour eux. Elle a cette petite part de liberté. Et pour le coup, les titres qu'elle choisit sont des titres que moi j'aime. Donc c'est des livres que j'aime. Il y a Pavèse, il y a René Char et il y a Adonis. Et à chaque fois, donc je les ai mis intuitivement parce que je les aimais, effectivement en hommage. Mais à chaque fois, en fait, je me suis rendu compte que le vers ou les vers qui me venaient de ces poètes-là, c'est des vers qui allaient très très bien avec l'histoire que j'étais en train de raconter.
Donc au final, c'est une forme d'intertextualité.
C'est la magie. C'est la magie.
Vous citez le rapport algérien Tif en exergue de votre roman. C'est un morceau qui s'appelle Hélas, mais nous, on avait envie d'écouter un autre morceau qui s'appelle La Nuit. Il est en collaboration avec PLK. Et voilà, deux, trois choses qu'on y entend et qu'on a trouvées en écho avec votre livre. Une liasse épaisse pour assurer ma descendance, une baraque, un jardin, une dépendance.
Quelques pépins dans ma tête, j'ai trouvé quelques copains dans ma quête. Vodka des mélanges bizarres dans mon cap. J'ai remis toute ma sophore dans la tête. Ouais, si Dieu veut, on ira au top. Si il veut pas, on restera au checks. Tu nous négligeais fort à l'époque. Aujourd'hui, de l'épaule, tu veux faire le check. Mais j'ai pas de mémoire, je me souviens de toi. Croyez pas en nous gros, souviens-toi. Une équipe soudée dans les délits. Moi, détergé tout créé de mes 10 doigts. Solitaire, ça me fait ni chaud ni froid. Que tu partes, que tu ne m'applaudisses pas. Une lien s'épaisse pour assurer ma descendance. Une baraque, un jardin, une dépendance. Et mes freins, ils aimeraient bien desserrer. Je sais même pas pourquoi encore je reste en France. J'ai plus la nuit.
Cette vie ne permet plus de teuf. Dans son blog, je ne fais plus de rêve. Je t'ai donné tout ce qui me reste. Faut que je ne rêve
plus la nuit.
Tu mets dans l'allée, tu me connes. J'en ai humain, je m'en vais près des nuages. Silence, le vécu te parle. Ma gueule, j'étais seul. J'ai avalé mon seum. Je les mélange à l'absolu. Comme entre la haine, je baisse le foule. Là, je t'affronce pas après. Je bosse mon karaté. Je cherche cette solus. Même dans mes rêves, j'aime poule. Je dors plus la nuit. Je rôde, je fume, je vide la bouteille. Je ne veux plus tisser de lien. En ce moment, je suis d'humeur, ça souque. Et peut-être que je t'oublierai demain. Pour l'instant, y'a ce manque à toute heure. Et je sais qu'on n'emporte rien. Je compte pas passer ma vie à looter. J'arrive en France, je vois c'est fermé l'accueil. Le cœur est rempli, mes verres, j'ai la feuille. C'est taf qui parle, gros. Autrement dit, faut fermer sa gueule. Je l'ai ouvert, j'ai devant le mic. Plus de bien devant le mal. Offrir luxe, haut de moi. Hauteur de plafond avant l'au-delà.
Ma gueule, j'étais seul. J'ai avalé mon seum. Je les mélange à l'absolu. Comme entre la haine, je baisse le volume. Là, je t'affronce pas l'après. Je bosse mon karaté. Cherche cette solution. Même dans mes rêves, elle me pollue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Cet après-midi, on pourrait sous-titrer un roman français. Dans Sicario Bébé, le titre de votre dernier livre, Fanny Taillandier, deux jeunes gens cherchent une solution pour vivre. Ils ont 17 ans, ils s'aiment. J'aime ton enceinte. Ils n'ont pas du tout de quoi se loger, pas plus de quoi élever un enfant. En suivant les chemins que prend leur débrouillardise, vous cartographiez quelques enjeux contemporains du pays. L'argent, bien sûr, et les cul-de-sac dans lesquels peuvent se retrouver tant d'individus, mais aussi la hausse réelle du recours aux adolescents par le crime organisé, mais aussi les traces de la colonisation et de la guerre d'Algérie dans les structures sociales actuelles, ou encore la vie dans les ZAD, ou encore la détériorisation des services publics. Tout ça, vous le faites en empruntant au passage quelques fils du tissu mythologique pour tramer un roman noir qu'on aime lire à toute vitesse. Sicario Bébé, apparu aux éditions Rivage. On en parle avec vous, Fanny Taillandier, avec un premier extrait. On est au tout début du roman.
Elle me regardait avec ses yeux profonds. Profonds, tellement profonds. J'ai jamais vu un truc pareil. En moi, ça faisait comme d'habitude, cette sorte de chaleur, mais aussi quelque chose d'autre, de nouveau, comme une fente lumineuse qui s'ouvre entre deux tours quand le soleil se lève ou décline et qu'on est ébloui. On ne voit que le halo et les deux lignes noires du contre-jour sur le béton. Un truc très grand et peu visible, un truc de ouf. J'ai dit « c'est trop bien ». Jen n'a pas bougé, à peine frémi. Je pense, après coup, qu'elle hésitait à me croire. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on a le droit d'avorter qu'on est obligé de le faire. On peut aussi se dire, allez, ça part de là. Et j'ai dit, allez, ça part de là. On était assis collés l'un contre l'autre, sur le bord du lit, chez elle. La télé dans le séjour m'a paru plus forte que précédemment. Elle s'est serrée contre moi et elle a dit, je t'aime. J'ai dit, moi aussi je t'aime. Et on riait et on se serrait dans les bras et j'embrassais la larme que je vis couler ou rouler au coin de sa paupière. Moi aussi, je l'aime. On s'aime depuis qu'on a 14 ans. Ensuite, elle est partie à Langevin, où il y a les bacs pro, plutôt pour meufs. Et moi, j'ai retapé parce que je voulais partir en électrothèque, mais ces bâtards du conseil de classe ont commencé direct à me mettre des bâtons dans les roues rapport à ce projet de carrière. Comme quoi, l'assiduité laissait à désirer, ainsi que mes résultats en sciences. Et derrière de me dire, tu sais, le redoublement, c'est une chance. Blabla. Si on fait ça, c'est qu'on croit en tes capacités. Ou alors, si tu veux, il y a de la place en métier de la sécurité. Jamais de la vie, je vais en sécurité. Pour être le noir qui va faire le pied de grue à H&M pendant 40 ans, en fouillant les sacs des gamines, tandis que les blancs vont aller voter Bardella ou Zemmour, dans les forces de l'ordre avant de nous tirer dans la tête, à bout portant. On connaît la chanson. Bref, j'ai redoublé et l'année d'après, j'ai réussi à aller en électrothèque, mais pas à V, à l'autre bout du département. Une zone où il n'y a que des blancs, d'ailleurs. Dont Bobby, et c'est là qu'on s'est connus. J'ai dû trouver un moyen d'aller crêcher là-bas, et c'est Bobby qui m'a dépanné. Je dormais chez lui quand on commençait à 8h, parce que la conseillère d'orientation, apparemment, elle n'a jamais capté qu'il n'y a pas de bus pour se rendre dans ce bled et être à l'heure. Et Jen m'a dit « Blaise, faut mettre les chances de ton côté. Faut pas rater les cours. » Elle avait raison. On s'est donc moins vus. Comme l'amour est un miracle, ça a continué entre nous, par miracle. Faut dire que des meufs, il n'y en a pas à Curie où j'étais, à part la prof d'histoire qui nous faisait aussi des cours de géo, de français et de culture, comme ils disent, et qui par ailleurs est assez belle, quoique déjà vieille de mon point de vue. Et Jen, c'est simple, en carrière sociale à Langevin, il n'y a que des meufs. Depuis, on continue à s'aimer. Tout ça, c'était donc le déroulement de mes 4 dernières années, un petit quotidien un petit peu de galériens comme nous, de bons prolétaires. C'est ainsi que la prof d'histoire les a désignés, ceux qui se font marcher sur la gueule dans le système et qui doivent s'organiser pour se défendre un tant soit peu d'ici à la Révolution, qui adviendra peut-être, a-t-elle nuancé. Et ça aurait pu continuer comme ça jusqu'à l'an prochain, qu'on soit diplômés tous les deux si Dieu veut, mais voilà. Jen, qui me dit un dimanche matin, après avoir passé la nuit en câlin, « Blaise, je suis enceinte. » Et moi, cette lumière éblouissante entre deux murs noirs, donc effectivement, c'est parti de là.
Une fente lumineuse entre deux murs noirs, c'est le début de votre roman, Fanny Taillandier. Et d'emblée, il y a deux choses que vous tenez très fort, presque une reine dans chaque main. C'est la grande tendresse et l'amour entre ces deux jeunes gens. Et la cartographie efficace, rapide, radiographique presque, de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux très politiques, très contemporains, très denses. Ces deux choses-là, comme si, vous n'alliez pas les lâcher, mais presque au sens affectif du terme.
Bah oui, en fait, quand j'ai commencé l'histoire, j'ai commencé vraiment par le début, par ces phrases-là qui viennent d'être lues. C'était Blaise qui parlait, et il était très important pour moi que Blaise parle du haut de ses 17 ans. Quand on a 17 ans, on a une vision du monde qui est assez, à la fois très concrète et très restreinte, n'est pas vraiment le mot, mais en fait très petite par rapport à tout ce qu'on ignore. En fait, on ignore évidemment beaucoup plus de choses que ce qu'on sait. Et donc lui, quand il parle, il y a sa ville, la ville d'à côté, il y a le lycée où est sa copine, le lycée où lui va, les gens qu'il a rencontrés dans sa classe. Et puis, il y a cette prof quand même, parce que tout le monde a déjà eu dans sa vie des profs qui disent des mots et où on se dit, tiens, ça me dit quelque chose de plus, ou ça m'aide à me comprendre, ou ça m'aide à comprendre quelque chose que je sens que je devrais comprendre plus tard.
En l'occurrence, donc, ici, quoi, les mots prolétaires, les mots révolution?
Voilà. En l'occurrence, le fait que, voilà, il y a des gens qui sont plus ou moins bien situés sur l'échelle sociale et que, Blaise a très bien compris, même s'il connaît pas grand chose, que lui, sa place, elle est pas très haute, quoi. Et que, il fait partie des enfants très nombreux à qui on dit non, tu feras pas ça. T'as envie de faire ça comme métier, mais tu feras pas ça, toi. Toi, t'es plutôt fait pour ça. T'es plutôt fait pour la sécurité. Bah oui, mais moi, je voudrais faire de l'électricité. Bah non. Et en fait, il y a des gens qui ont tout qui est donné, et puis il y a d'autres gens où tout n'est pas donné. Et lui, il a déjà commencé à expérimenter ça.
Mais alors, ce qui est très étonnant, c'est que l'effet de cul-de-sac que je décrivais en introduisant votre livre, il pourrait être redoublé par la survenue de cette grossesse de Jen. Et en effet, ça les met au pied du mur, parce qu'il décide de garder cet enfant. Mais en même temps, vous décrivez ça comme une fente de lumière. Il y a quelque chose qui s'ouvre, qui va les mettre plus en galère, mais qui va aussi beaucoup les mettre en mouvement, Fanny Taillandier.
Bah oui, c'est l'irruption de la vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, ils sont plus deux, il y a un troisième mystérieux, inconnu, pas encore créé, et pourtant déjà là, qui survient et qui redéfinit tout. Et ça, c'est le grand mystère de la vie, hein. La naissance et la mort, ça fait le même effet, ça rebat toutes les cartes, et tout d'un coup, le jeu est tout à fait différent, et il faut jouer avec les nouvelles cartes. Et en fait, lui, il le dit, Blaise, dès le début, l'amour est un miracle. Et donc, il le vit comme un miracle. Il est émerveillé par ça.
Bah, il accepte la forme de lumière. Il y a vraiment quelque chose de presque divin, d'ailleurs.
C'est ça. Il accepte cette arrivée comme une bénédiction. Et en même temps, très vite, dans la suite du texte, il se met à à paniquer en fait. Déjà parce que Jen se rend compte que c'est très compliqué pour une jeune fille de 17 ans d'avoir un enfant dans la France d'aujourd'hui. C'est-à-dire que soit elle décide de le faire toute seule et dans ce cas-là on l'aidera peut-être, soit si elle décide d'intégrer
d'avoir un père dans l'affaire,
dans le projet, en fait on l'aidera pas et elle a plus qu'à arrêter l'école. Ce qui est quand même un dilemme assez pourri à proposer aux jeunes filles de ce pays. Mais bon, c'est autre chose. Et puis lui, en fait, il voudrait, en fait, très vite, il a une sorte d'image d'Épinal qui lui vient, qui est, je vais avoir un fils, je vais avoir un enfant, ou une fille d'ailleurs, mais je vais avoir cet enfant et j'ai envie qu'il puisse jouer dans le jardin, donc j'ai envie d'avoir une maison, et puis j'ai envie qu'il ait des vêtements, un anorak pour l'hiver, et puis qu'il ait un tricycle. Et en fait, il a vraiment une espèce de fantasme de la parentalité qui lui met une pression d'enfer. Il se dit pas du tout, on verra bien, on va se débrouiller, on le mettra dans un coin, quoi. Non, non, il veut que ça soit, que tout soit là pour l'accueillir, quoi. Et donc, là, effectivement, ça met beaucoup de choses en jeu, puisque lui n'a pas de ressources, et Jen non plus.
Ça veut dire aussi que ça lance le roman, Fanny Taillandier, qu'il y a quelque chose de l'événement, en effet, brutal, inattendu, qui va vous permettre de tendre le récit romanesque. Est-ce que, immédiatement, c'était l'arrivée d'une grossesse?
En fait, c'est très bizarre, parce que j'ai commencé à écrire le personnage de Blaise, j'ai décidé d'écrire ce livre parce que je voulais écrire et réfléchir sur ces jeunes tueurs à gages là qui se font piéger et happer par les narcotrafiquants aujourd'hui, et que ça m'intéressait. Donc je me disais, je vais écrire sur ça. Et en fait, la première phrase qui m'est venue, c'était cette grossesse. Donc finalement, moi qui voulais écrire sur le crime, avant même que le crime puisse avoir lieu, il y avait ce mobile, parce que quelque part le mobile de Blaise pour aller entrer dans le crime organisé, etc., c'est « je vais devenir père et il faut que je m'occupe de mon enfant ». Mais c'était aussi, rétrospectivement, je me rends compte que c'était aussi quelque part dans le projet de départ, puisque la première fois que j'ai lu des articles, donc c'était dans Le Parisien, sur un fait divers qui impliquait un jeune garçon qui avait tué donc quelqu'un qu'il n'avait jamais vu, sur ordre de quelqu'un qu'il n'avait jamais vu non plus, pour une somme dérisoire, et qui s'était fait attraper immédiatement par la police, parce que, c'était pas un tueur professionnel non plus. Le compte rendu du fait divers est suivi par un extrait de son audition. Et dans l'audition, donc les policiers eux-mêmes sont désemparés, en fait. Ils sont là, mais enfin, tu sais pour qui t'as fait ça? Non, tu sais pourquoi t'as fait ça? Non, t'as gagné l'argent? Non, le gamin est totalement
broyé,
perdu. Donc il a 18 ans.
Et puis, mais il a un mobile.
À un moment, les policiers lui demandent, mais pourquoi tu as répondu à cette annonce, pourquoi tu as accepté de faire ça? Et il dit, je voulais aider ma mère. Donc, évidemment, le projet a totalement échoué, puisque sa mère, on peut bien se douter qu'elle n'a pas été aidée par le fait que son fils devienne un meurtrier et qu'il se retrouve derrière les barreaux. Mais il y avait quelque chose qui m'a dit tout d'un coup, mais en fait, c'est ça. On saisit le crime, on saisit les criminels à partir du moment où ils sont criminels. Donc, quand on parle des jeunes tueurs à gages, on les a au moment où, en fait, leur crime a remplacé leur identité. Il y a plus, ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de passé, ils n'ont pas d'affection, de lien avec quoi que ce soit. C'est des criminels. Et c'est bien normal, en fait, quand on tue, on enfreint le premier commandement, on s'exclut du genre humain. Donc, quelque part, c'est logique. Mais, en fait, en lisant ça, je me suis dit, mais c'est ça. Moi, qui m'intéresse, c'est de partir de l'humanité qu'il y avait là avant.
Et ça veut dire aussi que d'emblée, j'essayais de dire de quelle manière est-ce que vous tissez avec des trames mythologiques, mais j'aurais pu dire aussi des trames tragiques. C'est-à-dire que, en effet, c'est un motif. Vous avez dit finalement même histoire, naissance et mort, mais c'est un grand motif tragique, la grossesse au sens du quand on décide de garder l'enfant, de quelque chose qui arrive, quoi, du réel, et qui va donc mettre en mouvement toute l'histoire. On va écouter Sébastien, auditeur du Book Club. Il vous a lui et vous pose une question.
Bonjour le Book Club, bonjour Fanny Taillandier. J'ai lu votre livre Sicario Bébé, que j'ai beaucoup aimé, avec une justesse, je trouve, dans la trajectoire de Blaise et de Jen. Vous arrivez à restituer toute la complexité, en fait, de ces parcours de jeunes qui tentent justement de continuer à avancer, malgré les galères. Et notamment lorsque vous questionnez les réseaux sociaux et l'importance et l'impact que ça peut avoir lorsqu'on cherche des réponses, lorsqu'on a besoin en fait d'aide. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et je me demandais du coup comment vous avez réussi à construire ces personnages de jeunes adultes, comment vous avez pu un petit peu les rendre crédibles, sans rentrer dans un stigmate, sans rentrer dans des idées reçues par rapport à ce que l'on peut entendre sur une jeunesse ou sur un discours que l'on peut entendre. Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci à vous Sébastien pour cette lecture avisée et pour cette question. Évitez les stigmates, évitez les idées reçues dans la manière dont vous bâtissez ces voix de Jen, de Blaise, mais aussi de Bobby et d'autres personnes qui les entourent. Comment ça s'est construit pour vous, Fanny Taillandier, d'un point de vue de l'écriture ?
Ben ça, pour le coup, c'était plus qu'une intention, c'était un engagement dès le début de l'histoire. En fait, on vit une époque qui a un problème avec la jeunesse. Les jeunes, aujourd'hui, ils ont tous les défauts. On entend parler des jeunes pour dire qu'ils savent plus lire, ils savent plus écrire, ils veulent plus bosser.
Mais est-ce que ça n'a pas toujours été le cas ?
Voilà, peut-être que ça a toujours été le cas.
C'était des gros fainéants ou des blousons noirs, non ?
Peut-être qu'effectivement, quand on perd la jeunesse, ouais. On veut aux jeunes de l'avoir encore, ça c'est possible et que c'est pour ça qu'ils en prennent plein la figure.
Mais particulièrement en ce moment, vous diriez ?
Bah, en tout cas, il y a deux choses. Il y a ça, il y a cette espèce de lieu commun et de cliché où les jeunes donc sont enclins au crime. Happés par les réseaux sociaux, ne lisent plus, enfin bon, ils ont tous les défauts, etc. Et d'autre part, ils sont complètement absents de toute représentation. C'est-à-dire que il y a pas de, enfin je connais très peu de romans où les personnages sont jeunes. Et quand j'ai écrit ce livre, je me suis dit finalement la première référence que je trouve. Alors après, j'ai pas tout lu, hein, loin de là, mais c'était La vie devant soi de Romain Gary. Donc
il y a eu quand même deux trois petites choses ces derniers temps, Fanny Taillandier. Dans le roman contemporain, il y a quelques personnages jeunes. Après, ça veut pas dire qu'ils sont majoritaires, mais.
En tout cas, j'avais envie moi
d'en bâtir d'autres, voilà, peut-être, ou
de ouais, de en tout cas de leur donner la voix et la voix avec un X et la voix avec un E et que ça soit leur histoire et leur trajectoire. Et ensuite, éviter le cliché, c'est ce que fait la littérature, c'est ce que permet la littérature. On est abreuvé de ce que j'appelle pensée rapide, mais c'est même, je sais même pas si c'est vraiment de la pensée, mais en tout cas de segments tout faits de choses qui sont soi-disant déjà réfléchies, où on a déjà eu la conclusion, et donc à la fin on a une vision extrêmement manichéenne et schématique de tout, des générations, des classes sociales, des territoires aussi. Ce livre, c'est un livre qui se passe, on l'a entendu dans la lecture, dans une petite ville qui s'appelle V. C'est marrant parce que depuis qu'il est sorti, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit
c'est
bien comme oui, alors il y a ça, mais ça me fait plaisir parce que ça peut être à plein d'endroits, mais il y a eu aussi beaucoup de c'est bien comme tu décris la banlieue. Et moi, j'ai pas du tout décrit la banlieue, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est une petite ville perdue au milieu de champs et constellée d'autres petites villes autour. Et donc ça veut dire que, y compris quand on est dans une fiction, on plaque des choses qu'on croit avoir déjà vues, parce que peut-être c'est des jeunes de 17 ans qui parlent avec de l'argot, et que donc on se dit c'est la banlieue. Donc en fait, on est tous pris au piège par ça.
Breaking news, l'argot et la manière de parler le français tel que vous l'écrivez est parlé dans plein d'endroits en France qui ne sont pas juste la banlieue et la banlieue parisienne et les grandes tours, loin de là.
Bien sûr, et c'est pas non plus le langage jeune, parce qu'en fait le verlan, la première occurrence déjà, elle a plus d'un siècle, et le verlan comme expression courante, c'est des années, fin des années 70, début des années 80, donc les premiers locuteurs du verlan, ils sont à la retraite. Donc il faut arrêter avec cette idée du langage jeune. Les jeunes sont ceux qui apprécient le plus, d'un point de vue socio-linguistique, utiliser du verlan ou de l'argot, parce que le verlan comme l'argot ont des vocations cryptiques. Et que quand on est ado, on a envie de se cacher, on a envie d'avoir des secrets, donc on crypte. Mais c'est tout. En fait, il n'y a pas plus que ça à dire.
En l'occurrence, il y a plus que ça dans la langue que vous mettez dans leur voix et qui me semble presque être aussi une composante de probablement des choses qui seraient vraiment très contemporaines, Fanny Taillandier, ou si on tend l'oreille et si on aime écouter des jeunes gens de 17 ans, mais aussi beaucoup d'emplois du passé simple, beaucoup de tournures qui sont peut-être beaucoup plus littéraires qu'un parler oral qu'on entend. On a l'impression que vous n'êtes pas motivé que par une retranscription absolument réaliste. Il y a quelque chose de plus composite dans cette langue de Jenny Blaise.
En effet, moi, ce qui était très important pour moi, c'était justement de pas singer une langue orale. C'est pas ce qui m'intéresse. Quand on fait un livre, quand on l'écrit et aussi quand on le lit, on est dans un autre rapport au sens, en fait, et au langage dans son entend. On l'entend pas de la même façon. Il y a quelque chose qui change. Quand un mot est écrit, il a plus le même. Il a pas les mêmes forces. Ça se passe différemment. Et donc, ce qui était très intéressant et ce qui m'a beaucoup plu, c'était de venir réveiller la langue écrite, que je voulais une langue classique de narration. Donc, oui, ils parlent au passé. Ils emploient le passé simple.
Il y a plein de passé simple.
J'adore en fait lire des histoires qui sont écrites au passé simple, parce que quand on est dans le passé simple, on est dans le « il était une fois » et que c'est une porte ouverte vers l'imaginaire. Et donc, je voulais absolument ça. Et en même temps, tout d'un coup, il y a des mots d'argot extrêmement contemporains qui apparaissent, Et la phrase, elle est dynamitée, c'est trop fort, parce que c'est pas du tout ce que j'ai voulu faire. Je pense que ça reste assez fluide et, en tout cas, c'était mon objectif. Mais elle est réveillée, quoi. Mm. Et on se réveille à la lecture. Et moi, j'avais envie de travailler ces deux aspects-là de la langue ensemble, en ayant conscience que j'étais dans l'écrit. Mon modèle pour ça, c'était vraiment le voyage au bout de la nuit. Parce que dans le voyage au bout de la nuit, on a un locuteur qui imite ou qui réinvente un parler populaire et tout, mais personne n'a jamais parlé comme Barda Amu. En fait, ça n'existe pas. À part Céline, qui a ensuite lui-même singé ce qu'il avait fait dans le voyage au bout de la nuit en rajoutant des points de suspension partout, mais en fait, c'est une langue qui est inventée de toutes pièces.
En tout cas, pour répondre à Sébastien qui vous demande comment ne pas tomber dans les stigmates, dans les idées reçues, peut-être en étant dans la littérature, Fanny Taillandier.
C'est ça. Je pense que la littérature, c'est l'endroit, et ça, c'est ce que j'ai toujours affirmé et que je continue à affirmer, c'est l'endroit de la nuance et de la question et de la non-réponse. Et ça, c'est l'inverse d'un cliché.
On l'a bien compris, pour régler son grand problème d'argent, le pied du mur face auquel il se trouve, Jen et Blaise, il va y avoir la seule solution, c'est les crimes, ce qui place Sicario Bébé dans l'idée d'un roman noir. Il y a de la vitesse, il y a du suspense, on se demande comment ça va se passer. On va écouter à ce propos Jean-Bernard Pouy.
Dans le polar, il y a plusieurs catégories, et il y en a une que moi je pratique depuis longtemps, qui est le roman noir, qui est quand même un roman, sa spécificité, c'est d'être un roman de critique sociale. Alors c'est pas un texte militant écrit par un homme politique, il faut que ça soit quand même un roman, il faut que ce soit une histoire, il faut qu'il y ait un plaisir quand même, une méchanceté du moins inhérente à ce genre d'exercice, mais il y a toujours un fond de critique sociale. Depuis les années 30, depuis Dachier Lamet, quand vous lisez La Moisson Rouge, c'est n'importe quoi, c'est un délire complet, mais ça, c'est basé sur une espèce de réalité sociale qui était très très forte aux États-Unis à ce moment-là, qui dépendait de la crise de 29. Donc c'est un peu ça, le roman noir. Il faut quand même partir toujours de motifs qui sont pas uniquement politiques, mais quand même sociopolitiques.
On se dirigea vers la 308. On s'installa. Le smartphone avait un message non lu. Sans surprise, il s'agissait d'un nouveau point GPS à D, le port maritime. Selon Waze, on était à 6h30 de route. L'autre téléphone avait un numéro enregistré sous le nom de Boss, Julien, qui se prenait pour un grand patron sans doute. Je lançai le GPS du smartphone et allais l'accrocher à son support ventouse quand Bobby m'arrêta. Il prit l'appareil et le mit dans la boîte à gants qu'il referma. « Le micro, mec !» dit-il, en levant l'index vers son sourcil, comme un gars vachement futé. Et j'avoue, c'était assez futé. Même si j'aurais apprécié que Waze m'indique la présence éventuelle de keuf, j'avais prévu le coup autant que possible. J'avais mis une chemisette à carreaux et mes lunettes pour avoir l'air le plus possible d'un jeune évangéliste puritain. J'avais surtout l'air d'un con, car en bas, j'avais gardé mon jogging. Je manœuvrais, on passa le péage, des darons qui s'en vont en vacances, ou des VRP en mission, ou les dindons d'une méchante farce. J'accélérais fort. Je me retrouvais sur l'autoroute à 120 à l'heure. Et j'avoue, je fus traversée par un sentiment grisant de liberté, tout à fait hors de propos.
Un extrait de Sicario Bébé, votre roman Fanny Taillandier, paru aux éditions Rivage, et juste avant la voix de Jean-Bernard Pouy parlant de la forme du roman noir comme étant une forme pour lui capable de porter la critique sociale. On était en 2018, mais ce qu'on entend ensuite dans l'extrait de votre texte, c'est aussi un décor des invariants aussi du roman noir, la voiture, la route, la nuit, donc tout contemporain, mais il y a des choses qui restent, et l'idée de... Il va se passer un meurtre, il y a du suspense. Est-ce que ce sont des choses que vous avez eu plaisir à écrire? C'est pas la première fois que vous allez sur ce terrain-là, mais comment vous jouez aussi avec le genre et les codes du genre?
C'est un genre qui est très très exigeant, donc je pense que je lui rends hommage, parce que je suis une lectrice vorace de romans noirs et de polars. Pour autant, c'est pas un polar, parce que la mécanique du polar, j'y arriverai peut-être dans quelques années, mais
c'est
j'ai encore beaucoup de travail. C'est un horizon, mais je pense que j'en serai incapable. Enfin, en tout cas, je m'en sens incapable.
Quelle différence vous feriez entre le roman noir et le polar ?
Alors, je vais sans doute dire des choses que les spécialistes
Comme vous voulez, si vous ne voulez pas vous y risquer.
En tout cas, ce que j'entends par polar, c'est ces romans où finalement il faut ces romans où on découvre à la fin la vérité.
Ok.
Et pour écrire un roman comme ça, ça veut dire qu'il faut écrire en partant de la fin. Et moi, je suis incapable de partir de la fin. Donc, c'est pour ça que moi, Sicario Bébé, j'ai inventé le début. Je ne savais pas ça allait se passer. Et jusqu'à très tard dans l'intrigue, je ne savais pas comment j'allais faire pour qu'il se débrouille de l'endroit où il s'était tiré, ni comment ils allaient s'en débrouiller, si ça allait bien ou mal se passer. Je savais juste que j'espérais, comme les personnages, que ça se passe le moins mal possible. Voilà. Mais j'étais dans cette curiosité-là. En revanche, pour moi, ce que le polar fait de génial, c'est ce truc des choses cachées depuis le commencement du monde, cette espèce d'immense attirance qu'on a quand on lit des livres pour avoir l'impression qu'on va découvrir le côté obscur ou le revers des cartes. Et quand on est dans le crime, en fait, on est là. Quand on regarde The Wire, on se dit « Ah ouais, ça se passe comme ça », parce qu'en fait, derrière, il y a des méchants et des gentils qui se battent pour tirer les ficelles. Et il y a cet immense plaisir, qui est un plaisir extrêmement fictionnel, romanesque, je sais pas quel est le bon mot. Et donc, c'est là-dedans que Blaise et Bobby sont entraînés. Quelque part, ils viennent jouer dans une espèce de cour où ils n'ont ni les tenants ni les aboutissants. Ils essayent juste, encore une fois, de
gagner un peu d'argent.
Voilà, prendre l'oseille et se tirer, quoi.
Est-ce que pour cela, il faut avoir un peu de documentation ? Vous signaliez précédemment votre lecture de ce fait divers avec ce jeune gars qui a tué quelqu'un qu'il ne connaissait pas, sur ordre de quelqu'un qu'il ne connaissait pas, pour empocher finalement pas d'argent et finir en prison. Pour autant, vous citez une étude sérieuse, elle, du recours de plus en plus fréquent à des adolescents de plus en plus jeunes pour effectuer des assassinats sur ordre et empocher parfois une petite somme, parfois une grosse somme. Mais ça, c'est une réalité sociale. Est-ce que vous avez lu là-dessus, Fanny Taillandier ?
Je me suis documentée sur ce qui se passe au niveau des drogues, parce que... c'est une thématique que je trouve assez intéressante, peut-être par goût du polar, encore une fois, parce qu'il y a quelque chose d'un souterrain, d'un dédale. Et en fait, je me suis rendu compte, comme beaucoup de gens, que ça va très mal à l'heure actuelle. En fait, il y a une surproduction mondiale de drogue et l'Europe est le premier marché parce qu'on est les consommateurs les plus riches, quoi. Donc, on se fait assommer de quantités de stupéfiants. Et donc, il y a cette espèce d'entraînement vers la folie du capitalisme qu'il a dans tous les cas, mais qui est encore plus visible parce que comme c'est de l'argent sale, en fait, ça n'arrive plus du tout à se connecter au reste, où ça fait trop de drogue, puis trop d'argent, donc trop de pouvoir, trop de puissance, donc tout le monde se met à se tirer dessus, et en fait, on est dans un truc complètement fou, et aussi complètement uberisé et fractionné, comme le reste de l'économie, finalement. Là, en fait, c'est un miroir déformant, mais assez fidèle de ce qui se passe dans l'économie actuelle. Et évidemment, les jeunes gens sont les premières cibles de ça, parce que plus on est précaire, plus on est vulnérable, plus on se fait attraper par les potes, si on peut dire, les plus dangereux, quoi. Et donc, je me suis documentée via les rapports disponibles, parce qu'il y a quand même des rapports qui disent tous la même chose. Hein. Les policiers disent tous, ouais, mais en fait, on n'y arrivera pas. C'est vider l'océan à la petite cuillère et on n'aura jamais les moyens d'eux. Donc, en fait, on peut faire des grosses opérations de communication en allant à Marseille en disant, attention, on va sortir l'artillerie lourde, grand méchant, on va augmenter les amendes ou ceci ou cela. En fait, ça ne change rien au fait que beaucoup trop de cocaïne est produite par beaucoup trop de monde en Amérique du Sud, qu'elle monte dans beaucoup trop de bateaux et beaucoup trop d'avions, que tout le monde trouve un peu de quoi se nourrir là-dedans, et qu'à la fin, ça fait cette espèce d'océan qui arrive chez nous et qui fait qu'il y a des gamins qui meurent dans toutes les villes de France, quoi.
Toutes les villes et même toutes les campagnes, puisque évidemment la presse récente montre à quel point ce n'est plus qu'une affaire de Marseille-Paris, mais des villes moyennes, des petits villages, des jeunes gens ou des moins jeunes gens qui, en plein hiver, dans un dîner d'amis pour rien, prennent des traces de coke, etc., etc. Et donc il y a aussi quelque chose de la en tirant sur ce fil de la drogue, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir avec, Fanny Taillandier, et on revient bien au début de notre entretien sur la possibilité par le roman de cartographier ou de radiographier des enjeux contemporains. C'est-à-dire que votre roman, il est aussi traversé par la question de la santé mentale, il est traversé par la question évidemment économique, il est aussi traversé par la question postcoloniale et les traces qu'ont laissé la colonisation, la guerre d'Algérie. Et finalement, comme vous dites, la drogue, elle devient un symptôme pour évoquer, par exemple, le rapport à l'argent. Et vous faites une petite escapade dans une zone à défendre qui devient un lieu en dehors possible, un en dehors possible de la croyance en l'argent. Pourquoi est-ce que cette ZAD, elle vous permet de, elle vous permet quoi d'ailleurs d'un point de vue en dehors du refuge momentané pour vos personnages?
Bah en fait, moi je vis depuis 3 ans dans une ville dite moyenne, donc une ville de moins de 100 000 habitants. Et en fait, j'ai découvert dans cet espace-là que les mondes se croisent, ce qui n'est pas le cas dans les métropoles. En fait, dans les métropoles, très vite, on peut rester dans une bulle de gens qui vous ressemblent, qui font plus ou moins le même travail que vous et qui ont à peu près les mêmes enjeux de vie. Dans une petite ville, en fait, l'espace étant partagé entre moins de monde, mais aussi plus petit, en fait, on se croise. Et donc, ça donne la possibilité, d'un point de vue romanesque strict, d'emmener des petits gamins qui sont en cours de casse du siècle, comme dirait Blaise, à la ZAD. Et ça, c'est un vrai plaisir. Mais au-delà de ça, en fait, ce qui était important pour moi, c'est que les personnages que j'ai créés, je me suis dit, les pauvres, en fait, ils ont 17 ans, en 2026, en France, il n'y a pas de car pour aller à l'école le matin. L'hôpital, il est en grève. Il n'y a plus rien, en fait. Ils n'ont pas accès. Eux, ils ne le savent pas. Ils ont 17 ans, ils ne se disent pas, ah, c'était vachement mieux en 1994 quand j'étais pas née. Mais, en fait, de fait, ils n'ont pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de liens créés par les services publics, etc., toutes ces structures... Par contre, il y a la solidarité locale.
Et heureusement que Jen tombe sur un planning familial, néanmoins.
Heureusement que Jen est emmenée par sa tati, son ancienne
nourrice. Qui connaît les plannings.
Qui connaît encore les plannings familiaux. De même, heureusement que Blaise a son cousin plus âgé, qui lui est une figure de la lutte syndicaliste locale, et qui lui peut lui indiquer le chemin de la ZAD, parce que évidemment, lui ne le connaît pas. Et en fait, c'est ça aussi que je voulais montrer, c'est que on nous dit toujours, ah oui, alors il y a le problème des cités, le problème des quartiers, le problème de la ruralité, le problème des grandes villes, le problème de ceci, des étrangers. On dirait qu'on est des pixels. En fait, non. Les solidarités existent. Et on a tous plus de réseaux qu'on ne le croit. Et eux, ils peuvent aussi avancer grâce à ça, à ces solidarités.
Le book club continue. Je le signalais en début d'émission et finalement ça a irrigué toute notre conversation, Fanny Taillandier. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 25 janvier ont lieu les 10e nuits de la lecture et pour la 5e année consécutive portée par le Centre National du Livre, les nuits de la lecture qui ont pour thématique ville et campagne. L'autrice Marie-Hélène Lafont et l'auteur Laurent Godet sont la marraine et le parrain de cette édition. Je vous lis la note d'intention. Intimement liés, les deux espaces géographiques de la ville et de la campagne se répondent malgré des représentations qui ont la vie dure, nature, habitat, mobilité, organisation politique, aménagement et inégalité territoriale. Les auteurs et autrices contemporains se font l'écho de ces préoccupations. Les 10e nuits de la lecture proposent au public un voyage à travers les territoires urbains et ruraux. Des milliers d'événements sont programmés partout en France et au-delà des frontières. Rencontres, animations, pour petits, pour grands, en bibliothèque, en librairie, dans des écoles, dans des théâtres, dans des musées, dans des lieux culturels, à la radio, dans des espaces associatifs, dans des structures pénitentiaires ou encore des instituts français pour réaffirmer la place essentielle du livre et de la lecture auprès de tous. Je mentionne d'ailleurs à ce propos l'inquiétude grandissante de tout le monde du livre face aux futures coupes budgétaires liées au monde du livre. On y reviendra dans le book club. On peut pas citer tous les événements de ces nuits de la lecture 2026, mais on renverra sur la page du book club vers l'ensemble de cette programmation. Vous signalez que en Aquitaine, la marraine Marie-Hélène Lafont sera en rencontre à la librairie La Machine à lire à Bordeaux. C'est ce jeudi. À Paris, en Ile-de-France, au Grand Contrôle, c'est ce vendredi dans le 12e arrondissement, une grande soirée littéraire et festive avec notamment Laurent Godet, Jean-Baptiste Delamo et Audrey Plenet. En Seine-Saint-Denis, Fatima Das à la bibliothèque Cyrano de Bergerac de Clichy-sous-Bois, c'est vendredi aussi. Est-ce que je continue ou est-ce que ça fait trop? Dans Lyon, il y aura une rencontre avec Jean-Christophe Ruffin à la librairie Calligramme, samedi 16h. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Rendez-vous sur la page des Nuits de la Lecture. On mettra le lien sur le Book Club franceculture.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Vous le savez, pour nous avoir rejoints ici pendant 6 semaines, Fanny Taillandier, l'an passé, avoir tenu la chronique lecture d'actualité, on termine tous nos book clubs par des pages musicales. L'idée, c'est de chercher la musique partout où elle apparaît dans les textes. Donc, nos auditeurs et auditrices peuvent jouer avec nous en nous envoyant des captures d'écran, des photos de livres, des extraits, ou bien via le mail leboookclub@radiofrance.com, ou bien en passant par le compte Instagram du book club. Et Alexandre Alaibegovitch rassemble la collection avec vous, c'est facile. Il y a de la musique partout. Même quand elle n'est pas directement évoquée, elle traverse des paragraphes et on a rendez-vous avec la chanson des années 80. J'ai vu que quand même, à un moment donné, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais à la ZAD, il y a David et Jonathan. C'est une blague?
Bah oui.
Voilà. Et il y a autant du R&B des années 2000, du rap français contemporain, du rap américain, de la chanson française, bref. On avait l'embarras du choix. On se quitte donc avec un extrait de votre Sicario bébé. Je m'enfilais cul sec ou presque, un Red Bull que Bobby avait eu la bonne idée de prendre en même temps que les sandwichs, même si je déteste les Red Bull. Plus tard encore, on écouta Radio Classique et j'avais l'impression incongrue d'être dans un film français sur des quinquagénaires qui se cocufient. Plus tard encore, les étoiles disparurent et le ciel devant nous pâlit, rosy, blanchi, tandis qu'on roulait toujours droit devant. Plus tard encore, le soleil se leva et nous arriva en pleine tronche. Bobby avait retrouvé les fréquences de chez nous, mi-génération, et on eut droit à l'aube sur Béné, Béné de PNL, au moment où on prenait la bretelle vers V. Il date un peu ce morceau, mais c'était stylé en vrai.
Béné, 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 Béné. Dingue, dingue dans ma tête. J'roule, j'me fais racole au feu par Gitana. J'vois tes frères rentrer pour tes peines à la Fofana. Tereng, 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 tereng. Pepe Toro Mario, Ego, j'ai la tête. Zamorano, ti baggio, apatistuta. Les attaquants au ballon, car t'es parti pour cave. Gang, gang, j'fais le mili, j'sors la seca, seca. J'pose avec ma clope, avec mon feka, feka. T'inquiète, mon ami, hijo de puta, puta. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le boussa boussa. Tereng, 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 tereng. T'es dingue, dingue dans ta tête. Et toute la journée j'pense à tous ces Calimero. A Géchakov de Litron de Chiranero. Hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville, hein? Bene, bene. Belek, tu sors une arme sans l'âme de Yemma, Yemma. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene. Hola, hola, hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Elle écoute PNL quand elle est accroupie. Je crois pas que je suis condamné.
Merci beaucoup Fanny Taillandier d'avoir été avec nous pour parler de Sicario Bébé, votre roman tout juste paru en cette rentrée littéraire de janvier 2026 aux éditions Rivage. Au son aujourd'hui c'était Mineta Diawara, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, Jeanne Aléos, Noé Margas, Marianne Chassor, Mathilde Wagman, Léa Weissgruss, Carence Roubieux et Alexandra Laibegovitch qui anime la conversation sur le compte Instagram du Book Club.
Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Ah washa 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 policier. Ah washa 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 madre mia. Pieds sentent comme un bouquet, les miens sont bourrouqués. Le monde où nada, monde où nada. Bene bene, bene bene, bene bene.